Et bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Burger Ring. Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Les amis, aujourd'hui je reçois un invité de marque, un invité que vous connaissez si vous avez suivi les Burger Ring depuis pratiquement leur genèse. Cet invité de marque, c'est notre cher ami suisse Sullivan. Sullivan, comment vas-tu ?
Eh ben, je vais très bien. Bonjour à tous. Bonjour, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Ça va excellemment bien.
Écoute, tu m'as un petit peu nargué. Je t'ai trouvé un petit peu insolent avec ton passeport suisse. Alors, faut savoir un truc, les mecs. C'est qu'en fait, le passeport suisse, il est d'une couleur rouge que je qualifierais. On est entre la Ferrari. Et il y a un côté, tu sais, rouge suisse, en fait. On peut pas le décrire autrement.
Oui, c'est ça.
C'est le rouge suisse. Hein. C'est pas un rouge de « va y avoir du sang ». C'est pas un rouge forcément de la passion, c'est un rouge de on a coffré comme des bâtards et on a un drapeau rouge pour vous rendre fou. Alors il est très minimaliste, il y a une petite croix blanche dessus. Tu sais, c'est le côté c'est pas nouveau riche.
Non, c'est vivons heureux, vivons cachés quoi. Les doctrines de bourgeois si tu veux.
C'est ça, c'est un beau c'est la différence entre un mec qui va mettre si tu veux, c'est la différence entre un type qui va foutre la Rolex un peu bateau. Et le connaisseur qui va arborer une Philippe Patek, par exemple.
Voilà, une Patek Philippe, ouais, exactement.
Patek Philippe, voilà, c'est à l'envers. Donc voilà, ça m'a un petit peu nargué, j'étais un petit peu blasé. Bon, mais c'est comme ça, écoutez, il y a des territoires qui échappent au rouleau compresseur européen, et heureusement. Alors aujourd'hui, les amis, on va parler de plusieurs thèmes, en fait, au gré de notre discussion avec Sullivan. On va parler, je pense, comme d'habitude, des femmes, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elles ne prennent pas cette fois-ci. On va parler, tu voulais aborder, je donne les thématiques au début, on n'est pas obligé de les faire, on peut les faire dans le désordre, on peut les faire dans l'ordre qu'on veut. Tu voulais aborder aussi la question du métissage.
Oui, parce que, alors, ce qu'il faut savoir, on l'avait déjà dit dans un podcast précédent.
Peut-être c'est possible, tu peux le redire.
Voilà, je vais le redire, c'est que voilà, je suis métisse, donc de mère polonaise et de père nigérian. Et donc voilà, je peux parler du métissage parce que j'en ai une petite expérience, donc quitte à parler d'un sujet, autant parler d'un sujet que je maîtrise.
Voilà, alors pour te présenter politiquement, donc tu es un royaliste, hein,
oui.
Voilà, au même instar que moi, plus royaliste que monarchiste. Alors on m'a demandé d'expliquer la différence entre royaliste et monarchiste. Le royalisme, c'est le roi avant les grandes monarchies qui ont précipité, selon moi, la France dans les affres républicains. Et les monarchistes sont pour un retour des rois façon Louis XVI, Louis XV, Louis XIV, qui étaient des rois centralisateurs. Voilà, moi je suis pour un roi qui soit plutôt de la cabie de François Ier, de Saint-Louis, et je crois que tu partages plus ou moins ça.
Oui, voilà, plutôt des rois régionaux, l'extension du chef de famille, en fait.
Ouais, exactement, voilà. En fait, c'est une royauté organique, donc on est profondément politiquement d'accord sur ce sujet. Le rapport que tu as à la France, c'est parce que toi, du coup, tu es né suisse, tu as une... Alors, explique-nous.
Alors, voilà, c'est ça. Alors, moi, je suis né franco-nigériano-suisse. Alors, certains vont me dire, la multi-passeport, c'est pas possible. Bah, écoutez, c'est comme ça, voilà, j'ai pas choisi. Et puis j'en profite, et puis c'est très bien. Donc voilà, mais j'ai grandi à la frontière franco-suisse, donc à Genève, où on a une culture, il faut le dire, plutôt française.
Ouais,
les Suisses allemands ont tendance à nous le reprocher régulièrement d'ailleurs, et même si c'est difficile à assumer pour nous Suisses de Genève, on a une culture plutôt française. Ouais.
D'accord. Et oui, alors, il faut le savoir, enfin, t'es passionné par l'histoire de France.
Oui, voilà. En fait, j'ai eu la chance, petit, de participer à des colonies de vacances en France. Des colonies d'un mois, parce que j'étais un enfant insupportable en fait.
Ouais, donc tes parents se
débarrassent
ouais,
voilà, de toi. Mes parents préféraient lâcher 2000 balles pour ne plus me voir pendant un mois. Voilà, c'était ça en fait. C'était un camp de redressement plutôt. Mais c'était des colonies magnifiques, un peu bobo. Mais voilà, donc on était proche de la terre, on était un peu livrés à nous-mêmes. C'était l'époque où tu sais, on s'inquiétait pas non plus outre mesure pour les enfants. On avait le droit d'avoir des couteaux. Enfin, tout le monde avait son Opinel. On pouvait pas aller dans la forêt. On avait de l'indépendance. On pouvait aller se baigner dans de l'eau sans qu'il y ait un adulte qui se dise qu'on allait se noyer dans une flaque d'eau. Donc c'était génial. Et à travers ces colonies, j'ai pu visiter les endroits les plus, comment dire, écartés de France, parce qu'évidemment, on se retrouvait dans des campagnes. Donc il y a eu l'Auvergne, il y a eu l'Alsace, il y a eu le Jura, et j'en garde des souvenirs.
Mais de toute façon,
ça m'a marqué en fait.
Alors déjà, je voudrais revenir sur un truc que tu as soulevé qui est très juste, c'est qu'il y a une période où effectivement, dans les sorties scolaires, tu pouvais sortir, t'avais 8 ans, tu pouvais sortir un Opinel de famille. Tu sais, il y a des numéros. Alors t'as toujours des Mongols qui sortaient l'Opinel, pas le plus gros forcément parce que c'était vraiment un truc de boucher, mais qui sortaient des Opinels avec des lames surdimensionnées, le couteau suisse. Ça c'était plutôt. Alors le couteau suisse, moi quand j'étais gosse, il y avait 3 écoles pour le couteau. Les fils de paysans, les fils de gens enracinés, ils avaient soit un Laguiole, mais c'était très rare, soit majoritairement un Opinel, qui était vraiment un couteau qui était considéré comme un couteau à tout faire, tu vois, que tu peux sortir dans un repas sans rougir, parce que c'est un très bon couteau. Il y avait l'aspect terroir, il y a le côté opérationnel, puisqu'en fait, c'est un système qui est vachement bien pensé, qui a fait ses preuves. Tu avais les mecs qui avaient le couteau suisse, ça c'est tous les types qui sont devenus ingénieurs ou néo-nazis. Et après, tu avais les bœufs qui avaient des poignards de la fête foraine. Tu sais, parce qu'il y avait cette race-là. Alors, peut-être pas en Suisse, hein, mais moi, à Toulouse, on était un certain nombre à avoir gagné en tirant
à la carabine à plomb.
À la carabine à plomb, à la fête foraine. Tu pouvais récupérer, à l'époque, s'il était très à mode, le couteau de Rambo. Tout le monde voulait le couteau de
mais
sac.
Mais il n'était pas aiguisé.
Si, oulala, attends. Là, on est en 1990. On n'est pas en 2025 de PD, si tu veux. À l'époque, au tir à la carabine, tu gagnais des lasers qui rendaient les gens aveugles.
Oui, je me souviens bien ça. En fait, la moitié de son stock est devenue interdite.
Ouais, c'est le ça. Les pistolets à billes avaient des puissances de ouf.
Même les peluches, elles contenaient des plastiques toxiques pour les gosses, quoi.
Elles avaient des armatures en métal.
Oui, il y avait de l'amiante dedans, plus ou moins.
Et donc, si tu veux, à l'époque, donc il y avait le film Rambo qui était sorti. On avait vu ces couteaux, c'est le couteau de Jungle King, je crois, qui s'appelle le vrai couteau américain, c'est le Jungle King. On l'avait vu dans Rambo, on l'avait vu dans Predator, on l'avait vu dans trop de films, si tu veux.
Mais c'est le couteau avec les petites dents carrées au
cou. Exactement, à l'arrière.
Quand tu... Ça cicatrise jamais, en fait.
Exactement, c'est le truc d'énorme bœuf américain. Ouais, alors, il y avait des tailles, mais je suis pratiquement... Alors, attention, il faudra vérifier, mais je suis pratiquement sûr que ce soit dans Commando. Peut-être pas dans Commando, mais il y a vraiment ce couteau, c'est un couteau de dotation, c'est le Jungle King, sauf qu'il prenait la taille énorme pour les films, évidemment. Et on voulait tout ce couteau. Et tu partais en sortie scolaire, t'avais le couteau suisse, t'avais l'Opinel pour les mecs normaux, avec le Laguiole pour les aristocrates, tu vois. Et les Mongoliens, ceux que tu gagnais à la fête foraine étaient pas de la taille du couteau dans le film.
Oui,
c'était
oui.
Le même en mini, si tu veux.
Pour les enfants.
Oui, pour les enfants. Mais si tu veux, la maîtresse, à un moment, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait, oui, allez, sortez vos goûters.
Non, mais oui, c'est pire que ça, parce qu'à un moment donné, elle vérifiait les pactages, il fallait avoir un couteau. Hein.
Moi, ouais.
C'était dans la liste des objets, si tu veux. Non, il faut quand même se rendre compte. Hein.
On envoie les enfants, ouais, il faut qu'ils aient leur dotation, leur pactage. Et donc, du coup, on sortait nos petits poignards et ça coupait de la tomate avec le poignard. On était refait de couper. Alors, on faisait tout avec le couteau. Et oui, effectivement, moi, j'ai le souvenir. Alors, je suis pas trop parti en colonie. J'ai fait une colonie qui était une colonie municipale où on est parti au ski pendant 5-6 jours. Bon, on s'était régalé. Franchement, c'était très, très drôle. On avait très, très peu ski. On avait fait essentiellement de la luge. Il y avait eu 2 jours de ski. Le reste, c'était de la luge. Oui. J'en ai découvert. Enfin, ils se débrouillaient pour qu'il n'y ait pas non plus un forfait trop cher. Et c'est vrai que les adultes étaient beaucoup moins. Alors, il faut dire les choses. C'est une période où t'avais beaucoup d'accidents, t'avais des gosses qui se perdaient en haute montagne, tu sais, il se passait des trucs de taré, tu ouvrais la presse, ils avaient bu de l'eau qui était pas, je sais pas quoi, il y avait de la javel dedans. Les mecs, ils mouraient en colonie de vacances, tu vois, c'était encore l'époque où il y avait des trucs comme ça. Mais c'est vrai que ça offrait une liberté et une responsabilisation et un sentiment, en fait, d'être un grand. Qui était un truc très formateur, moi, je pense, tu vois. J'en avais un petit peu parlé l'hiver dernier, sur le Brame du Cerf, tu sais, on est allé écouter le Brame du Cerf.
Oui, fait que oui, dans mon village, il y a aussi ça. Y a
voilà, tu vois.
C'est un événement.
Et oui, parce que, oui, je suis con, mais oui, parce que dans ma tête, les cerfs, c'est les Pyrénées, mais non.
Non.
Il y en a partout en France,
en Sologne. C'est à côté de la réserve naturelle de Rhône-Alpes, du Rhône, et là, voilà, il y a des grands cerfs, c'est vraiment magnifique.
Et voilà, donc c'est vrai que pour la période, c'était les adultes étaient moins sur nos côtes et ça nous a permis de plus facilement nous fabriquer et d'être moins conformistes. Parce que en fait, il y a un moment où la maîtresse te disait non, t'as pas le droit d'amener un pistolet à billes, truc. Tu le planquais, tu l'amenais quand même. Il y avait des cassosseries comme ça. Il y avait encore, je pense, aujourd'hui, les enfants continuent à désobéir, mais ils désobéissent de manière malsaine. C'est-à-dire que tu rentres en confrontation avec l'adulte. À l'époque, tu désobéissais quelque part. Tu voulais pas heurter les adultes. Tu voulais juste garantir. Il y avait un côté don't treat on me, tu sais. T'étais un petit patriote américain qui voulait pas qu'on lui confisque ses libertés.
Ses libertés, c'est ça, fondamentale. Tout à fait.
Stay safe.
Ça veut dire, il y avait un côté aussi, si tu quittais le foyer, c'était pour avoir un peu plus de liberté quand même, quoi.
Évidemment.
Donc t'allais quand même un peu les tester, les moniteurs.
Exactement.
Mais les meilleurs, bon, ils savaient faire avec les gosses, puis c'était génial, quoi.
Mais bien sûr.
Moi, j'avais des jeunes, je suis même pas sûr qu'il y avait le BAFA à l'époque.
Peut-être, je sais pas.
Peut-être déjà, mais enfin, j'avais des jeunes qui étaient un peu irresponsables, mais qui étaient super cool. Et honnêtement, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Ils avaient voilà, assez de différence d'âge avec nous. Ils devaient avoir 25 ans et nous, on en avait entre 10 et 14. Donc assez pour qu'on les respecte, mais pas trop pour qu'il y ait un décalage et que voilà, ils comprenaient nos enjeux et ce qu'on vivait, les envies qu'on avait, etc. Donc c'était vraiment vraiment génial.
Enfin voilà, bon, c'était petit souvenir, parce que nous aussi les colos c'était à la montagne, en fait c'était les Pyrénées, c'était pas les Alpes mais c'est les Pyrénées. Donc les amis, on va rentrer. Excusez-moi, on va rentrer dans un petit peu les sujets. Ben pour lesquels, en fait, tu vas avoir une liberté de ton que ne peuvent pas forcément avoir des blancs totaux ou des noirs totaux, puisque toi, tu es le fruit du... Alors, le métissage a toujours existé. Ce n'est que très récemment qu'il est devenu massif. Ce n'est que très récemment qu'il a été fortement promu comme une espèce d'appareil politique, donc on pourra en parler. On pourra parler du métissage dans l'histoire, parce qu'il y a quand même des choses à dire là-dessus. Des fois, on a une vision un peu biaisée parce qu'on focus sur une civilisation sans se rendre compte que il y a des différences entre des métis par exemple indiens français natifs américains au Canada et les métis des anciennes colonies espagnoles ou portugaises, c'est encore différent, voilà, parce que il y a l'esclavage, les métis que tu as au Canada c'est encore autre chose, tu as le métissage dans l'Antiquité, on en a parlé un peu l'autre jour, et c'est vrai que toi c'est magnifique parce que tu vas pouvoir apparaître, parce qu'en fait il faut dire aussi les choses. Juste, excuse-moi, je suis un peu long, mais le métissage a longtemps été quelque chose défendu. Je te parle dans sa massification par la gauche. Donc toi, tu es quelqu'un qui se définit comme étant un conservateur, un patriote. Donc tu as une vision de la question, en plus tu le vis dans ta chair, donc tu as une vision de la question qui est intéressante parce que tu es pas dans la promotion, t'es pas la Magalax qui dit « Ah, moi, je voudrais trop avoir des enfants métis », comme si c'était un achievement, comme si c'était un but en soi. Pour toi, il y a les conséquences, il y a les bons côtés, il y a les conséquences. Alors, est-ce que tu veux que je te laisse la parole? Est-ce que tu veux que je démarre sur...
Allez, je te laisse démarrer, puis j'embraye, je répondrai aux questions.
Bon. Si on a... Alors, de manière très, 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 très succincte, je voudrais juste donner quelques éléments d'historicité du métissage. Dans le monde antique, le métissage, il est réservé aux castes supérieures. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est plutôt les castes les moins aisées qui vont avoir tendance à être moins endogames et à se mélanger. Grosso modo, les prolos se métissent plus facilement dans la masse que les élites. Dans l'Antiquité, c'est l'inverse. Par exemple, on l'ignore, mais Cléopâtre, elle était d'ascendance à moitié grecque, d'un côté, et de l'autre, c'était des sémitonubiens, c'était des berbères avec des variations. Il pouvait y avoir, dans les berbères de l'Antiquité, il pouvait y avoir des blancs aux yeux bleus, comme il pouvait y avoir des gens qui s'apparenteraient à des Éthiopiens. Voilà. Donc aujourd'hui, le type physique de Cléopâtre, ça serait une métisse sémitonubienne grecque, puisque c'était une... comment il s'appelle, une descendante d'un général d'Alexandre le Grand, en fait, hein, qui a reçu l'Égypte, hein, puisque quand l'empire d'Alexandre le Grand s'est délité, il a partagé les restes de son empire entre ses généraux. Bon, ça me reviendra, c'est le nom de sa dynastie, c'est le nom d'un général romain, de général macédonien, ça me reviendra. Bref. Donc, dans l'Antiquité, César prend pour épouse une femme qui est racialement pas romaine. Alexandre le Grand a eu plusieurs épouses pour asseoir un peu sa légitimité dans son empire. Il a épousé une Afghane en Bactriane, il a épousé une Perse, il a épousé ensuite une Indienne, puisqu'il a le droit d'avoir plusieurs femmes. Donc le métissage, les enfants, les fruits de ces mariages ont existé dans l'Antiquité. C'était quelque chose qu'on considérait être faisable par le haut du panier, parce que on allait léguer. Déjà, c'était un métissage entre rois, en fait, entre lignées royales. Donc, les enfants avaient une double royauté. Et c'était des instruments politiques. C'est-à-dire, quand tu voulais diriger un peuple, tu montrais que ce peuple, quand tu voulais pas le diriger, par la force, tu le dirigeais, en fait, en montrant que si tu étais capable de mélanger tes gènes à ce peuple-là...
Il y a une continuité,
ouais,
dans les deux civilisations qui se rencontrent.
Exactement.
Ils ne perdent pas leurs élites, ils ne perdent pas non plus le... Comment dire, ils sont toujours commandés par des gens de leur race. Alors, à moitié, finalement, parce qu'il y a eu un métissage, mais c'est quand même, il y a quand même une continuité. Voilà, j'aimerais préciser une chose pour tout le monde, c'est que le métissage, à l'époque, ça reste quand même un détail.
Ah, bien sûr.
Et puis bon, métissage des élites, parce que bon, les pauvres, ils n'avaient pas de passe Navigo, il n'y avait pas EasyJet. Donc déjà, pour aller se métisser, il faut pouvoir sortir du pays, faire des kilomètres, voilà. Nigeria, Pologne... C'est quelque chose, je pense, qui est presque impossible avant l'arrivée des transports modernes. Voilà.
Ouais, sachant que, alors, sachant que, quand même, un petit détail à donner, quand on estime que le nombre, donc, parce que Rome était un empire, le nombre d'extra-européens dans Rome, puisqu'ils avaient, ils ramenaient des gens de l'Italie, d'Égypte et tout, fatalement, même si c'était pour certains des esclaves, pour d'autres des marchands, fatalement, il y a eu des mélanges. Mais qui n'était pas un objet politique, qui était souvent, comme à cette époque-là, des mariages, avant qu'on romantise à partir du 19e la question du mariage, c'était des mariages souvent qui était pour des questions, voilà, j'ai un terrain que je convoite, j'épouse telle femme, j'hérite de ce terrain, pour des réseaux, des mariages arrangés, en fait, comme ça se fait dans les sociétés traditionnelles. Donc la question se posait moins, puis ensuite, il y avait la question du métissage comme objet politique, donc ça c'était pour les élites, et ça s'est poursuivi à la Renaissance, quand justement les Européens sont arrivés dans des endroits qui étaient très très loin de l'Europe, où Cortés, le premier truc qu'il fait, c'est se marier avec une Indienne, donc la Malinche, et faire un enfant avec elle, qui est le premier Mexicain. Puisqu'en fait, les Mexicains ne sont pas des Aztèques, les Mexicains sont un métissage, un mélange tout à le moins culturel, de Mexicas, d'Aztèques, et d'Espagnols. Donc, vraiment, le métissage en Amérique du Sud a été fondateur de nations. Alors, contrairement à ce qui a longtemps été dit, il n'empêche pas le racisme, puisque même dans les sociétés métisses, on le voit avec les Antilles, tu as des graduations
bien sûr.
Avec celui qui a le moins de semblant, celui qui a le plus de semblant.
C'est la gestion de la difficulté dans le jeu South Park, je sais pas si t'avais vu ce truc-là.
Non,
je sais pas. En fait, dans le jeu South Park, la jauge de difficulté, c'est une jauge chromatographique.
Ah oui.
Plus tu choisis que ton personnage soit foncé, plus t'augmentes la difficulté du jeu. Bon, il précise que ça n'a pas d'effet sur la qualité des combats.
Ouais.
Ce qui est une fraude, parce que pour moi quand même il y a un petit effet. Quoique non en fait. Non.
Bah le fait d'être persécuté normalement te rend plus dur.
Ouais, mais les Tchétchènes sont très blancs.
Oui, mais ils sont persécutés dans leur pays depuis
très
longtemps.
Oui, mais ouais, du coup voilà.
Tu vois. Oui, non mais je vois ce que tu veux dire, bien sûr.
Alors
bien
voilà,
sûr.
Et puis j'aimerais aussi préciser qu'il s'agit pas d'un métissage. D'une époque coloniale, en ce qui me concerne.
Oui.
Voilà, le métissage est très récent. Donc, il y a une lignée pratiquement pure du Nigeria jusqu'à mon père. Et après, du côté de ma mère, bon, comme c'est des Européens, il y a des métissages intra-européens, polonais, français, voilà.
D'accord.
Donc, mais le métissage s'est fait dans un contexte, comment dire, d'égalité sociale et salariale.
Entre ton père et ta mère.
Entre mon père et ma mère.
Ta mère n'était pas en mode « adopte un migrant ».
Voilà.
Oui, c'est important
de préciser.
Oui, c'est pas une espèce de charité, c'est vraiment un mariage entre des personnes qui appartenaient à la même caste.
Exactement, ils faisaient le même boulot, ils travaillaient ensemble. Donc voilà.
Oui, parce que alors, intéressant parce que par exemple, bon, il y a des nations qui ont un métissage de fait. Par exemple, le Mexique, c'est un nombre de créoles assez réduit. Les créoles, en fait, ce qu'on appelle les créoles, ce sont les descendants d'Européens qui ne se sont pas mélangés, qui sont très souvent les détenteurs des richesses, notamment au Mexique, qui sont en fait d'ascendance espagnole, d'ascendance juive, beaucoup. En Argentine, ça va être les Italiens, bon bref. Et ce sont donc une partie infime de la population, qui concentre quand même tous les pouvoirs, ce que serait l'équivalent du béquet aux Antilles. Ensuite, tu as le gros du peuple qui sont des variations de mélange entre indigènes et européens. Et ensuite, tu as une proportion qui n'est pas négligeable au Mexique. Je crois qu'elle est de l'ordre de 30% d'indigènes qui sont restés, qui sont peut-être culturellement faits aux Européens, mais qui sont restés génétiquement des indigènes. Voilà, qui n'ont pas ou très 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 peu de sang espagnol. Donc, tu as des nations comme ça qui se conçoivent comme étant le fruit de la rencontre entre le catholicisme et la génétique mexica, tu vois. Et ensuite, tu as des endroits, comme par exemple le sud des États-Unis ou les Antilles, où le métissage est marqué par une question de domination. Une question de domination très violente via l'esclavage, avec des castes très marquées, avec une hiérarchie des esclaves en fonction de est-ce qu'ils sont mélangés avec des Indiens ou pas, quel est leur niveau de blancheur, est-ce que ce sont des nègres de maison ou des nègres de champ, pour reprendre les termes de l'époque. Hein. Voilà. Donc, si tu veux, ces sociétés-là, il y a une énorme question raciale que tu n'as pas dans les sociétés sud-américaines, même si, évidemment, dans les sociétés américaines, il y a des questions de mise à l'écart des indigènes par les métis, et de mise à l'écart des métis. Mais, si tu veux, c'est quand même beaucoup plus uniforme, et le métissage ne s'est pas fait par le viol dans la plantation, tu vois ce que je veux dire ? Alors qu'aux Antilles, il y a quelque chose de terrible, c'est que les Antillais portent en eux, pour la plupart, à la fois le sang du violeur et du violé, à la fois le sang du négrier, c'est-à-dire qu'en fait, si quelqu'un est un descendant de négrier dans les débats avec les Antillais, c'est avant tout, c'est horrible à dire, hein, mais c'est avant tout les Antillais eux-mêmes. Parce que des fois, bon, ils reprochent des trucs à des blancs de la Franche-Comté, tu vois, qui sont des qui grattent le sol pour extraire des carottes du sol depuis 1000 ans, tu vois, et qui ont rien à voir avec avec les négriers, alors qu'eux ont du sang de bordelais qui faisait du commerce triangulaire.
Oui, enfin bon, ils n'ont pas choisi d'arriver là en ces conditions, quoi. Et ça, c'est un point sur lequel je voulais mettre le doigt. C'est quel que soit votre ressentiment envers les métis, ce qu'ils représentent, il faut bien comprendre qu'ils n'ont pas choisi.
Tout à fait.
Vraiment. C'est pas un projet de dire bon, je vais arriver et puis je vais me mettre un max de difficultés. Je vais me mettre dans aucune case. C'est-à-dire que je peux m'identifier à rien de spécifique. Alors, il y a eu une période quand j'étais jeune, c'était les années 2000, où c'était plutôt sympa d'être métis parce qu'il y avait une vibe, il y avait le hip-hop qui perçait, il y avait vraiment la vibe. Ouais, les blancs voulaient, surtout en France et en Suisse, les blancs voulaient découvrir l'Afrique. Et ils voulaient idéaliser l'Afrique. C'était avant le 11 septembre. C'était avant les djihadistes, avant qu'on se rende compte que voilà, Boko Haram, il y avait des Noirs un petit peu énervés. Bon, il y avait eu bien sûr les guerres intra-africaines, mais si vous voulez, il y avait quand même toujours cette image du Noir cool. Tous les films américains, il y avait toujours un second du héros, voire un héros qui était un Black,
ouais.
Sympa, occidentalisé. Donc il y avait un truc qui a un peu soutenu la cause des métis pendant une époque. Et là, aujourd'hui, on arrive dans une époque bien différente. Il y a un peu de repli identitaire, un peu, c'est un euphémisme, hein. Il y a un bon repli identitaire un peu partout dans le monde. Et le problème, c'est que repli identitaire, quand ton identité...
Elle est... Oui, c'est-à-dire que tu peux pas te replier en te séparant en deux.
Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. Moi, l'idéal, ce serait que je me divise en deux, je sais pas, dans la longueur, dans la largeur, je sais pas encore comment je vais faire ça. Faut que je vois avec un méta si on peut, tu sais, on peut... Les chromosomes, on peut les trier. Je sais pas comment on peut faire, tu vois, mais je me clone. Je fais un clone blanc, un clone noir, puis après, je les envoie chacun dans le pays qui convient, tu vois. Non, c'est vraiment... ouais, c'est assez compliqué quand il y a du repli identitaire, parce que vous êtes affilié à rien, ou plutôt... En Europe, je suis affilié à un Africain. En Afrique, je suis affilié à un Européen.
Et oui, c'est le drame du métis, c'est qu'il est toujours, il représente toujours la part d'étranger qu'il a, lui, dans un groupe hétérogène. C'est-à-dire que dans un groupe dans un groupe homogène de blancs, tu es l'hétérogénéité. Dans un groupe homogène de noirs, tu représentes l'hétérogénéité blanche.
Voilà.
Et toi, alors, pour toi, parce que tu as eu des mots quand même, enfin, à plusieurs reprises quand on discutait, tu as eu des mots assez durs à l'endroit du métissage, pour toi, tu considères, enfin je t'ai entendu le dire, mais tu me corriges si j'exagère, mais tu considères que c'était irresponsable, que c'est irresponsable, ou en tout cas pas irresponsable, mais que c'est quelque chose qui aura beaucoup de conséquences de faire des enfants métis.
Ouais.
C'est un truc que je suis en train de dire, t'as la dent dure contre les parents qui ne mesurent pas la violence que ça va être pour leurs enfants, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, je pense que il faut... Bon, il y a eu cette époque des années 2000 où il y a eu la déconstruction de la famille traditionnelle en Europe. Et donc les gens ont pensé que la famille c'était quelque chose de malléable et l'identité familiale c'était quelque chose qu'on peut recréer en une génération. Malheureusement non, la famille est vecteur de culture à travers l'éducation, etc. Et voilà, plus votre famille, entre guillemets, plus votre lignée est pure au sens de la culture, plus la culture que vous avez, elle est pure et solide et légitime.
Ouais, ouais, ouais.
Donc voilà, il y a ça. Maintenant je veux pas... Alors je veux bien dire que je parle en mon nom,
ouais.
Parce qu'il faut comprendre qu'un métis comme moi, de classe moyenne, qui n'est pas spécialement connu, voilà, c'est une chose. Un métis comme Kylian Mbappé, bon, c'est une autre vie. Hein, voilà,
oui, bien sûr.
Mais concernant la responsabilité des parents, c'est souvent des gens qui ne sont pas métis eux-mêmes.
Ah ben évidemment.
Qui ont un désir de produire un métis. Et donc ils n'ont pas vécu ce que c'est. Eux sont bien affirmés dans leur genre et dans leur ethnie et dans ce qu'ils représentent. Moi, je vais devoir créer ma place. Alors, ça a l'air sympa sur le papier, mais oui, c'est compliqué. C'est quand même compliqué.
Parce que, alors, d'un point de vue strictement biologique, alors là, ça va être un peu violent, parce que je vais parler comme un mec du 15e siècle, mais le métissage au départ, en partie, c'était pour créer des hybrides qui avaient à la fois les skills d'un tel et les skills de tel autre. Alors, je vais t'expliquer. Par exemple, à un moment, les Espagnols trouvaient que les Indiens, les indigènes, les autochtones, les natifs américains, n'étaient pas assez solides. Ils les trouvaient facilement, ils tombaient facilement malades, ils les trouvaient pas assez forts physiquement. Alors, il y a eu un truc, ils ont essayé de leur faire boire du lait, tu sais, qu'ils ne digéraient pas. Donc, il y a eu une campagne où ils prenaient des Indiens, il leur foutait des entonnoirs, si tu veux, il leur faisait boire du lait. C'est du lait entier de vache, tu vois. Que les mecs ne digéraient pas. Les mecs vomissaient, ils tombaient malades. Non, mais tu vois un peu le truc, c'est de l'élevage. Hein. Ouais. Et là, il y a eu un mec qui a dit, mais attendez, mélangez-les avec des Angolais, enfin, tu vois. Bon, parce qu'ils sont pas assez forts, donc au lieu de leur donner du lait, prenez des Indiennes, faites-les, je reprends les termes, s'accoupler avec des Angolais ou des Congolais.
Ils ont croisé ça comme on croise des variétés de pommes, quoi.
Ouais.
Il y en a une qui est verte, il y en a une qui est plus sucrée, tu veux une verte et sucrée.
On va faire une Pink Lady. Non mais, tu vois, il y a quand même eu ce truc de... On va créer... Tu sais, ils ont joué à Dr Globule, tu vois. Ils ont pris une Indienne et ils ont dit, bon, écoute, Mamadou, on te la laisse une demi-heure, là, vas-y, démonte-la bien. Et ce qui va en sortir va être à la fois adapté au climat, au biotope et à la culture indienne et à la fois va être un peu plus fort. Donc, il y a eu ce truc-là qui a été fait. Donc, on sait que... indépendamment de ça, les éleveurs, n'importe quel éleveur, moi j'en connais, n'importe quel éleveur, quand tu croises par exemple des races de je sais pas, de chevaux, de cochons, par exemple tu croises un port noir de Bigorre avec un cochon allemand, si tu veux, tu vas obtenir un cochon de la première génération qui va être un surcochon par rapport aux autres.
Tout à fait. J'ai vu ça en biologie à l'école. Voilà. Tout à fait.
En fait, dans la première génération de métissage, tu as un renforcement, parce qu'il y a un renouvellement génétique très puissant, donc tu as un renforcement de toutes les caractéristiques positives d'un côté et toutes les caractéristiques positives de l'autre, avec un amoindrissement des caractéristiques négatives. Ça, c'est pour la première génération. Après, quand tu multiplies les générations de métissage, tu retombes en fait dans la... Tu retombes dans la génétique classique que tu as, c'est-à-dire que même au Brésil aujourd'hui, avec tous les mélanges qu'il y a eu à l'époque, ils sont ils ont les mêmes problèmes issus ou côté positif de la génétique que des Européens, que des peuples qui sont des peuples séculaires. Voilà. Donc, sachant que dans un code génétique parfait, tu as un tout petit peu de consanguinité quand même. La consanguinité permet de renforcer certains attributs. C'est une construction sur des siècles, donc il faut un petit peu de consanguinité. Mais l'hétérogénéité, première génération, renforce la psyché. On constate que les premiers métis sont plus intelligents que la moyenne. Ils ont évidemment la double culture, donc ils arrivent à avoir une polyvalence qu'ils sont forcés d'avoir, en fait. Parce qu'il faut qu'ils communiquent à la fois avec la part, imaginons, de noirs qu'ils ont eux, et de blancs qu'ils ont eux, ou de mexicains qu'ils ont eux, et de noirs qu'ils ont eux, ou d'européens et de mexicains, peu importe. Et ils ont cette polyvalence, cette plasticité entre deux mondes. Ils sont un trait d'union. Donc ce sont ceux qui, partiellement, ont hérité du pouvoir, d'ailleurs, dans des sociétés où il y a eu des fractures profondes raciales, ce sont souvent les métis qui ont hérité du pouvoir. Alors les métis, évidemment, les plus clairs, les plus proches, évidemment, des créoles.
De la race dominante. Voilà.
Donc, le métissage, si tu veux, tous les peuples, à peu de choses près, sont de toute façon un mélange et un amalgame de plusieurs peuples. La différence avec le métissage, c'est que, comme sur des siècles, ça se normalise, tu obtiens au final une, entre guillemets, ethnie, même si à la base, elle est fabriquée avec plusieurs ethnies.
C'est ça, et je pense que je peux donner un exemple à nos auditeurs qui leur parlent. Si certains d'entre vous ont été adoptés ou éventuellement ont un beau-père, ont grandi avec un beau-père, vous vous rendez bien compte que la place de votre éducation, de votre socialisation, dans l'enfance et du vivant, est bien plus prégnante que l'héritage génétique seul. Et mon problème à moi, c'est que, bien que je sois métisse, ma mère est l'occidentale.
Ouais.
On est souvent éduqué par notre mère, hein, qu'on se dise les choses. Surtout, bon, j'ai un père africain, donc le rapport du père africain avec l'éducation est un peu distant. Il est présent, mais il est à la fois distant. Et j'ai grandi dans un milieu complètement blanc. Il y avait très peu d'Africains, encore moins de métis à l'époque en Suisse. Et bon, voilà, j'étais dans un milieu un petit peu privilégié où il y avait, que des blancs. Donc moi, j'ai découvert que j'étais différent à l'adolescence. Parce qu'avant qu'il me pousse une paire de burnes, j'étais un gentil petit métis. Et à un moment donné, je suis devenu un vecteur de racialisation. Voilà. Donc, le rapport des gens a un petit peu changé. Le rapport que j'ai eu à moi-même aussi a changé. J'ai dû m'adapter. Mais c'est très compliqué parce que dans ma tête, si vous faites le calcul, comme je l'ai dit précédemment, vous voyez bien qu'il y a quand même très peu d'Africains.
Ouais, ouais.
Malheureusement, ce qui définit la race pour la plupart d'entre vous, c'est pas ma sociologie, c'est ma couleur, c'est mes traits.
Donc, tu es un Africain pour des gens, sans en être un, enfin pour la majorité des gens, puisque tu es dans un milieu blanc, c'est ton côté africain qui est noté, alors que sociologiquement, dans tes habitus, pour reprendre un terme sociologique, dans ta manière d'être, dans tes habitudes, dans ta façon d'interagir avec le monde, dans tes occupations, tu es un pur produit de la Suisse.
Ah oui,
voilà.
C'est un pur produit franco-suisse, voilà.
Et donc de ça, d'après ce que j'ai compris, tu m'arrêtes si je ne vais pas parler à ta place, mais ça, tu en tires une souffrance parce que tu estimes qu'en fait, tu es voué à être identifié et rattaché à un univers qui ne te correspond pas. Donc tu es tout le temps en fait en décalage avec l'image projetée et ce que tu as à donner.
Voilà, alors... Il y a de la souffrance, mais j'ai aussi cerné qu'il y avait des avantages.
Oui.
Je vais en donner quelques-uns. C'est sûr que c'est pas facile de s'intégrer. Les gens ont des a priori quand ils me voient. Maintenant, quand je débarque dans un environnement, je suis immanquable.
Ouais, je vois.
En bien ou en mal, c'est comme disent les Américains, en bien ou en mal, l'important c'est qu'on parle de vous.
Ouais.
Donc si j'étais américain, je serais certainement très heureux,
ouais,
parce que je passe jamais inaperçu, surtout dans les milieux royalistes, plutôt conservateurs, etc.
Ouais.
Voilà. Donc c'est certainement plus facile pour moi que pour certains d'entre vous de faire ma place, parce que je vais être visible. Alors que bon, je suis conscient qu'un blanc parmi d'autres blancs, si vous n'avez pas quelque chose d'exceptionnel à dire ou à faire, vous êtes un peu invisibilisé, du moins vous vous fondez dans la masse. Donc autant je suis, il y a une forme de ségrégation, il y a une forme de sélection, mais ça va aussi à l'inverse, j'ai une forme de sélection. Et dans mon métier de majordome, il est vrai qu'en plus du cliché du majordome noir et tout, le fait que je sois un jeune métis, bien éduqué, assez unique, parce qu'il a une forme de culture et de légitimité acquise par mon éducation, etc. Ça leur plaît beaucoup. C'est un produit exotique, novateur, etc. Alors, l'exotisme, ça peut paraître un petit peu insultant, dire vous êtes exotique, mais moi, à la fin de la journée, je suis comme tout le monde, je veux m'en sortir. Si ma caractéristique, c'est que je suis exotique, bon, bah, je prends. Hein, si
ça oui, peut c'est me faire ça gagner qui me fait bouffer.
C'est ça qui me fait bouffer, donc... C'est pour ça que je suis pas dans l'antiracisme, etc. Parce qu'au final, c'est un fait, c'est comme ça. Et ça ne m'empêche pas de vivre. Au contraire, à certains moments, c'est un avantage par rapport à mes homologues blancs 100%.
Oui, oui, il n'y a pas que des... non, mais évidemment, il n'y a pas que des... Alors, c'est intéressant parce que, je vais reprendre ce que tu as dit, toi, tu es quelqu'un de conservateur. Enfin, c'est pour ça qu'on est amis, on a vraiment beaucoup de choses en commun et tout. Mais tu vas te heurter à un moment. Alors, est-ce que tu trouves qu'il y a plus... Ça, c'est une question intéressante. La réponse va être longue, j'imagine. Mais est-ce que tu trouves... Parce qu'évidemment qu'il y a du racisme à droite, évidemment qu'il y a du racisme à gauche. Ce sont des racismes de nature différente. Lequel pour toi, et sois honnête, hein, vraiment, lequel pour toi est le plus violent, le plus urticant, et comment ils se traduisent? Ça, c'est une question que je me pose.
Le racisme de gauche, si vous voulez, c'est... t'es noir, tu peux pas voter à droite.
Ouais.
Comment tu peux voter Le Pen? T'es issu de l'immigration.
Ouais.
Donc le gauchiste sous-entend que parce que je suis issu de l'immigration, malgré que j'ai un passeport français, pour lequel le gauchiste se bat, hein, pour que j'ai la nationalité, que je lui ai conservé, que j'ai les mêmes droits, le gauchiste sous-entend que je ne serai jamais assez français pour pouvoir être patriote.
Et oui, et pour voter pour les intérêts de la France.
Pour voter pour les intérêts de la France. Donc le gauchiste m'empêche de m'intégrer. Et ça, c'est très violent. C'est assez agaçant. Plus tous les clichés qu'il a envie de me mettre sur les épaules parce que ça correspond à son narratif, etc. Le droitard, c'est un peu plus compliqué. C'est que le droitard, comme je tiens à participer, on va dire, par exemple, au retour du roi de France, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur.
T'es légitimiste?
Oui. Enfin, en réalité, ça m'était un peu égal.
D'accord.
Je pense que...
T'es providentialiste.
Oui, voilà.
Bon, très bien.
Pour moi, il serait bon qu'on puisse être d'accord entre légitimistes et vacantistes,
oui,
parce que l'enjeu est trop grand et que si on a une chance de pouvoir refaire venir au moins un premier roi, bon, on regardera pas trop qui c'est, puis après on verra petit à petit comment la monarchie s'installe. Mais bon, on n'en est pas là, puis c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais à droite, ce qui est compliqué, c'est que moi, j'ai envie de me battre pour la France. Et je subis du rejet de la part des gens que je veux défendre. Bon, ben ça, c'est quelque chose que tu connais aussi, hein, je crois.
Les gens que tu veux défendre, donc on est d'accord que les gens que tu veux défendre, ce sont les héritiers légitimes, parce que toi et moi, en plus, je dis ça au passage, on a conscience qu'on n'est pas des héritiers génétiques de ça, parce que toi, t'es polono-nigérian, moi, j'ai pas de sang français, je suis d'origine espagnole, mais on est tellement ébloui par la culture française, on aime tellement ce pays, qu'on veut défendre l'héritage de ce pays. Et des fois, en se confrontant à des gens qui sont leurs véritables héritiers, en tout cas génétiques. C'est-à-dire que c'est leurs ancêtres à eux qui ont fabriqué ce pays qu'on essaye de défendre. Je parle pas seulement des gauchistes qui nous combattent, Alors de manière différente, parce qu'ils vont moins oser, enfin ils vont pas te combattre de la même manière que toi. Toi ils vont te dire que t'es un traître, un bounty. Moi ils vont m'expliquer que je suis un, que de toute façon il faut. Des fois ils, d'ailleurs ils utilisent des arguments qui sont très drôles. Ils me disent t'es même pas français, ferme ta gueule.
Mmh, donc, oui non. Voilà. Un peu de total.
Et par contre de l'autre côté, certaines fois des droitards qui te disent, alors à raison ou pas, moi j'estime que c'est dommage, mais qui te disent de toute façon tu n'es pas concerné parce que ce ne sont pas tes ancêtres qui ont fabriqué ce pays, donc en fait ferme ta gueule, c'est nous qui voilà. Mais après le problème c'est que sur le papier, sur le terrain, tu vois qu'il y a énormément de Français de souche absolument française qui collaborent à la destruction de leur pays et qui lui vouent la même haine. Quand tu vois les loups boyards par exemple,
faut voir que le Français de souche, même à droite, il considère qu'il est légitime à faire de la merde en France parce que son arrière-grand-père est français ou que sais-je.
Ouais.
Parce que son père ou son grand-père n'est plus là pour lui mettre des claques, pour le corriger, il se pense intrinsèquement supérieur à moi, même quand il piétine son propre héritage, alors que moi j'essaie de le conserver.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Il faut comprendre, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qu'à travers ma formation, je suis considéré par les sommités de la culture du savoir-être française, donc des gens que je pourrais nommer, je suis considéré comme un ambassadeur du savoir-être à la française.
En fait, il faut le dire aussi, ton métier de majordome, c'est pas n'importe quoi. Tu fréquentes la très haute noblesse, tu fréquentes des gens qui sont des héritiers des nobles médiévaux, puis de la Renaissance. Et ces gens-là estiment que tu portes cet héritage-là au-delà de ta couleur. Eux, ils estiment que tu portes cette maestria, ce truc-là. Et des fois, t'as effectivement des droitards un peu bas du front qui vont te nier ça, alors que bon, forcément, n'ont pas le niveau de maîtrise des codes de l'aristocratie que toi tu peux avoir. Donc ça, c'est vrai que c'est un paradoxe assez fou. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors pour se recentrer sur la question du métissage, toi, quelle place, tu vois, pour des gens qui ne sont pas franco-français. Alors, on va parler du métis, et puis après, on parlera... Enfin, moi, je me suis déjà exprimé là-dessus, pour les gens qui ne sont pas d'origine française, comme le Raptor ou comme moi, mais qui ne sont pas, entre guillemets, des extra-européens. Bon, parce que la Kabylie, c'est quand même des locodermes, mais on va dire, allez, on va quand même mettre le Raptor dans les extra-européens. Donc, pour toi, quelle est la place au sein du combat patriote, du combat de maintien de l'héritage français, quelle est la place des métis pour toi?
Bon, des métis, c'est un peu compliqué. Je ne veux pas parler pour tous les métis, donc je vais parler pour moi.
Ouais.
Comme je l'ai dit aux royalistes que je fréquente, au cercle royaliste auquel j'appartiens, je suis conscient de l'intérêt de conserver aussi la génétique
bien sûr
présente en Europe,
bien sûr,
et de la protéger. Je suis conscient de ma prédation quant à cette...
Tu représentes une prédation par rapport à ça?
Oui.
Parce que pourquoi? Parce que tu pourrais te mélanger avec une européenne, c'est ça?
Parce que si je reste assez longtemps et que je suis fonctionnel, je vais finir par me mélanger avec une européenne. Statistiquement, il y a quand même encore une grande majorité de blanches en Europe, il me semble.
Oui, bien sûr.
Donc j'ai une grande chance de finir avec une blanche. Et du coup, je vais être un vecteur
de métissage.
De métissage.
Et donc du coup, de déstabilisation.
De déstabilisation culturelle, voilà, symbolique.
Et à ton corps défendant, si je puis dire, puisque tu es né là, tu n'as pas d'autre patrie que celle dans laquelle tu es né et celle que tu as aimée, parce qu'évidemment, ça aussi c'est un truc qu'il faut expliquer, la légitimité à défendre quelque chose, elle vient parce que tu as vu des paysages que tu t'es mis à aimer plus que tout. C'est-à-dire que j'imagine, j'en sais rien, moi tu vois, je suis né dans la vallée de la Garonne, pour moi, le sud-ouest, tu vois, là je suis retourné vivre en Espagne parce qu'aujourd'hui ma place en France, elle n'est plus possible. Mais mon pays reste le sud-ouest. Les paysages qui m'ont fabriqué, que j'aime, les paysages de mon enfance, ceux avec qui j'ai une relation émotionnelle extrêmement forte, voire amoureuse, tu vois, c'est le sud-ouest. Et après, j'élargis à la France parce que je sais qu'on fait partie d'un grand ensemble, tu vois. Donc toi, indépendamment du choix qu'ont fait tes parents de faire un enfant métis, les montagnes au milieu desquelles t'as grandi, c'est les montagnes suisses.
Elles me sont inséparables.
Voilà, c'est ça.
Dès qu'il n'y a plus de montagnes pendant, allez, un mois, deux mois, trois, je commence à me sentir mal. Je cherche la montagne, je cherche les lacs, les rivières, les forêts de sapins. Voilà, c'est mon imagerie, en fait. J'ai grandi là-dedans.
Quand je laisse Toulouse trop longtemps, je veux revoir les mecs qui jonglent le feu rouge. Toulouse est une ville de 8-6 et de jongleurs en feu rouge. Non, mais ça en fait partie parce que je suis là. Je suis en train de dire, ouais, Toulouse, les montagnes. Bon, on va se dire la vérité. Toulouse, c'est des boomers franc-mac de merde qui tiennent toute la ville avec des jongleurs en feu rouge de fils de pute.
Non mais enfin pour revenir parce que j'ai pas terminé. Ouais.
Ce que je veux dire c'est que j'ai été bien clair avec tout le monde. Le jour où la France sera restaurée en partie, du moins la monarchie sera restaurée, que les menaces principales qu'on connaît tous ici seront éliminées. Si le dernier problème français c'est moi et ma couleur, je m'en irai.
Ouais.
Je m'en irai par amour pour la France.
C'est magnifique.
Je préfère une France pure qu'une France salie avec moi à l'intérieur.
Ouais, bah attends. Alors là, un afrocentriste patenté te dirait, mon frère, tu es dans l'aliénation la plus totale au point de considérer que... Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je me fais l'avocat du diable, tu vois. Moi, j'ai déjà ma réponse dans ma tête.
Et c'est ça. Et c'est ça, il a pas compris ce que je suis. Il me voit noir.
Oui, mais toi, quand tu dis, je pars pour que ça reste pur, le mot est violent, pur, tu vois, pur. Bon, si tant est que, par exemple, une France avec Louis Boyard et sans noir soit pure, tu vois, parce que moi, si tu me
parles... Non, mais au sens où les racialistes, avec leur théorie,
ouais,
l'entendent.
Ah, voilà, d'accord, elle soit pure racialement,
oui,
même si la moitié des Blancs sont homosexuels ou communistes.
Ça, je... Voilà.
D'accord. Oui, parce que ça, c'est un argument que j'entends, mais qui peut se défendre. Hein. Ils te disent, l'argument des racialistes, hein, ils te disent, bon, peut-être que, effectivement, au sein de l'ethnie blanche... Enfin, il parle de race. Au sein de la race blanche, peut-être qu'il y a énormément de communistes, d'homosexuels, de dégénérés, de suicidaires, tu vois. Mais on est entre nous et ça fait un problème les extra-européens, même si ça met quelque chose de positif, de par leur nature, ils vont déstabiliser, en fait, ils vont déstabiliser le pays. Mais moi, ce que je leur réponds, j'en prie directement sur ma réponse. Moi, ce que je leur réponds, si tu veux, c'est que quand tu vois le niveau de suicide qu'ont amené, le niveau de suicide civilisationnel, enfin, tu as quand même Louis Boyard qui applaudit quand Rima Hassan dit « Il y en a marre des porte-paroles, grosso modo blancs, on va prendre le pouvoir. » Il s'est fait évincer de son propre groupe. Il applaudit, le mec. Donc, faut bien comprendre que, si tu veux, quand tu as des hurluberlus comme ça au sein de ton pays, et qui sont des milliers, parce qu'attention, il y a beaucoup de gens qui ont une détestation, malheureusement, d'eux-mêmes en France, ça commence à être compliqué d'entendre que des gens de bonne volonté, parce qu'à chaque fois, ce que je constate, c'est qu'on grossit le trait de mon discours, tu sais, pour le décrédibiliser. Je dis pas qu'il faut remplacer chaque communiste français par un métis de bonne qualité, tu vois. Parce qu'après, les enfants qui vont avoir, attention, comment ils vont trouver leur place, ils vont pas se rebeller contre parents, je dis pas ça. Je dis que dans le combat actuel, les bonnes volontés sont à prendre, ça doit pas devenir un paradigme. C'est pas parce que t'as des blancs défaillants qu'il faut absolument les remplacer par des noirs catholiques, tu vois. Voilà. Mais, cela dit, et c'est là où il y a de la finesse et de la subtilité dans le discours qui est tout le temps gommé par mes détracteurs, c'est que je dis, en revanche, il y a des éléments qui peuvent être vraiment primordiaux et qui sont des alliés dont on ne peut pas se passer dans la situation dans laquelle on est, parce qu'on est vraiment au bord de la rupture. Il y a des pays, d'ailleurs, où ils ont dépassé ce bord de la rupture.
Mais en fait, quand je dis ça, si vous voulez, vous devez comprendre que c'est un pied de nez aux racialistes. Parce que je suis conscient d'être une richesse pour la France.
Oui, c'est obligé.
Donc en fait, à un moment donné, s'ils me pètent trop les couilles et qu'ils me font trop chier, je me casse.
Ouais.
Je vous laisse avec vos blancs.
Ouais.
Voilà, je vous laisse entre vous, en fait. Voilà, voilà, je vous laisse avec vos cocos blancs. Si c'est vraiment ça qui vous emmerde, c'est ma couleur, je me casse. Moi, il y a d'autres gens qui vont m'accueillir, si vous voulez. J'ai rencontré beaucoup de gens, je peux pénétrer des milieux dont la plupart d'entre vous ne pénétreront jamais.
Oui, parce que ton milieu social, bon, déjà tu as un passeport suisse, hein, avec la vie qui va avec, donc effectivement tu as accès à des choses auxquelles un roturier ou un gueux blanc comme moi n'a pas accès.
C'est ça, et c'est en ça aussi que je refuse le discours antiraciste, qui dit que, par exemple, les Noirs étaient opprimés, à certaines périodes de l'histoire, un peu passées, et que les Blancs, tous les Blancs, à la même époque, vivait un idylle.
Ouais,
mais alors, qui c'est qui sortait le charbon des mines, tu sais, Germinal?
Oui.
Il n'y a pas un seul noir dans Germinal, si tu veux.
Bien sûr, bien sûr.
Donc moi, je suis conscient que l'écart de classe prédomine encore, et je pense prédominera toujours, sur l'écart de race à un certain niveau. Voilà. Après, même dans les hiérarchies, dans les gens très puissants, très riches, il y a des écarts, et souvent on retrouve un peu les schémas, les blancs en haut, et voilà. Plus les gens sont de. Je vais pas dire mélanotherme, mais j'entends de civilisation moins victorieuse ces derniers 500 ans. Si on
ouais, veut. Je vois, bien sûr, bien sûr. Voilà. Oui. Oui, par exemple, même un milliardaire noir pourra pas forcément marier une milliardaire chinoise ou une milliardaire.
Voilà, voilà. Il reste quelques plafonds de verre.
Ouais. Ouais.
Mais ça, c'est la symbolique de ce que représente ma civilisation, la civilisation africaine. Malheureusement, justement, c'est un sujet intéressant. Malheureusement, avec la peau noire, vient tout un type de stéréotypes. Et c'est rarement des stéréotypes de croissance économique et de développement patrimonial, si tu veux.
Ouais, ouais.
Donc, un Chinois ou un Blanc, quand il voit arriver un Africain pour marier sa fille, c'est pas comme quand il voit arriver un Juif, si tu veux. L'héritage culturel, il est très bon, hein. Il y a des choses excellentes en Afrique, avec énormément de valeur. Mais d'un point de vue purement capitalistique, civilisationnel, le capital des Blancs, des Juifs...
Il est supérieur.
Supérieur. Et qu'on vienne pas me dire que toutes les cultures se valent, les gens traversent la mer que dans un sens. À la nage, je précise. Oui, parce qu'ils viennent en bateau, les autres, mais c'est pas pour les mêmes raisons.
Oui, alors... ce qui est sûr, c'est que... Et d'ailleurs, ça leur est reproché, c'est que les Occidentaux ont installé les canons de la classe, du style, de la beauté, ils ont installé
leur propre... Au-delà de ça, c'est objectivement, si vous avez une maladie en Afrique, bon, ben, la danse, les gris-gris, tout ça, c'est génial. Mais là, vous allez être limité, et puis il y a des besoins de nécessité primaire, vous voyez la pyramide des besoins, qui sont bien mieux remplis en Occident qu'en Afrique.
Bah, évidemment.
C'est surtout de ça dont je veux parler. Je veux pas, faire des comparatifs infaisables entre les cultures, etc. Je veux simplement dire que dans la pyramide de besoins, en Europe, notre pyramide des besoins est plus solide, mieux remplie, mieux encadrée que dans la majeure partie des pays, par exemple, subsahariens.
C'est comme les gens qui défendent le communisme et qui oublient que quand le mur a pété, ça s'est fait dans un sens, voilà. La migration, et pas dans l'autre. Ça, c'est évident. Oui, donc en fait, c'est la preuve par l'épreuve de la réalité que effectivement il y a une partie qui présente plus d'avantages que l'autre.
Voilà, c'est ça. Et les gens essaient de conserver leurs avantages à travers les générations, et c'est absolument normal. Voilà.
Alors il y a un gars là sur Instagram, donc il s'appelle Henri de Clermont. Je le connais vite fait. Bon. Lui, il est passionné de Moyen Âge. Il est métis nigérian d'ailleurs, franco-nigérian. Ce qui est assez rare, puisque Nigeria, c'est une ancienne colonie britannique et non pas française. Et donc, il est franco-nigérian. Il poste des photos où, avec son frère, il reconstitue de manière historique, hein, parce qu'il y a la reconstitution bouchique et la reconstitution historique, des vêtements de la guerre de Cent Ans. Il exhume des documents où, effectivement, on voit que par-ci, par-là, au Moyen-Âge, il y a quelques noirs qu'on a ramenés, qui se trouvent là, alors, pour diverses raisons. Lui, il y a deux sortes de commentaires. L'écrasante majorité, ce sont des patriotes français qui lui donnent de la force en lui disant « c'est génial » parce qu'en fait, finalement, il est dans ce qu'on attend, c'est-à-dire l'assimilation, même pas à la République, mais à la France, c'est-à-dire au Moyen-Âge, en fait. Hein. Voilà, il est dans la promotion du Moyen-Âge français. Lui-même est à moitié français, bon. Et tu as une autre part qui lui disent, qui lui colle des paragraphes des paragraphes de Céline, en lui disant la négrification de l'histoire de France, tout est une course vers Haïti, enfin j'ai plus le passage exactement en tête, en oubliant que ces gamins, ils sont deux, je crois, ils sont deux frères, c'est deux mecs au fin fond, parce qu'ils habitent à la campagne. Qui seront entre guillemets ethniquement dilués en fait, parce qu'après avec les mariages qu'ils ont fait, comme tu le dis, il y a plus de proportions qui se foutent avec une manche. Et par exemple, il y en a beaucoup qui l'ignorent, mais Baptiste Cheval, c'est un descendant, il a une grand-mère qui est métisse sénégalaise, tu sais. Donc en fait, le métissage, quand il n'y a pas de noir pour le conserver, en fait il y a une dilution progressive, et t'as des gens, Dumas qui a écrit Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo, il était carteron, tu vois, et les gens n'identifiaient pas forcément qu'il était
carteron. Alors après moi je suis pas là-dedans, je me sens pas obligé d'aller chercher des événements historiques pour justifier ma présence en France.
Oui, j'ai bien compris. Non mais je le dis à titre illustratif.
Oui, mais justement, je ne rentre pas là-dedans, je n'en ai pas besoin.
Ouais, ouais.
Je connais la France, je parle très bien le français, je suis légitime en France.
Ouais.
Que vous le vouliez ou non. Et d'ailleurs, j'attends des gens qui vont me critiquer, qui vont probablement critiquer ce podcast, etc. J'attends de vous que vous soyez supérieur à moi en tout. Globalement, tous les racialistes, là, qui balancent des cartes du QI, j'attends de vous que vous soyez supérieur à moi en tout.
Intellectuellement,
intellectuellement, physiquement, voilà, que vous soyez des hommes complets.
Des aristocrates.
Oui, peu importe, enfin, voilà.
Ouais, mais
parce qu'à un moment donné, il faut que le discours soit backé par la réalité,
ouais,
si vous voulez.
Ouais.
Genre, moi, c'est insupportable d'avoir passé autant de temps à m'élever, socialement et intellectuellement, pour en fait me faire clasher par des gens fainéants qui ne... En fait, c'est ça, vous êtes des rentiers de la nation, en fait, de la nationalité.
Non, ce sont
de l'héritage culturel.
Oui, ce sont des rentiers, alors tu dis un truc très juste, ce sont des rentiers de la maestria de leurs ancêtres.
Oui, de votre légitimité à être français, vous êtes des rentiers. Ouais, la plupart d'entre vous n'avez pas retravaillé votre légitimité à être français.
Oui,
parce je veux pas dire tous, hein, mais je parle surtout des racialistes un peu bas du front, voilà, qui vont péter les couilles.
Oui, parce qu'en fait, là, c'est très intéressant, c'est qu'on est sur un fil tendu. C'est-à-dire, on peut pas, au prétexte d'être ultra assimilé, remplacer un peuple parce que tout le monde est un aristocrate congolais, tu vois. Bon, ça, c'est le discours exagéré qu'on me prête, d'ailleurs. Mmh. C'est pas du tout le mien. Et ensuite, de l'autre côté, effectivement, tu peux pas, à quelqu'un qui amène de facto du mélioratif à ton pays, fermer la porte en étant toi une merde, au titre que ce mec-là n'a pas reçu un héritage dont d'ailleurs la personne qui l'a reçu n'est pas responsable. Parce que de la même manière que le métis, c'est pas sa faute s'il est métis, le blanc, c'est pas sa faute, il a pas produit un effort pour être blanc.
Voilà. C'est
pas sa victoire à lui. L'effort que tu produis à être blanc, c'est quand tu prends l'héritage blanc occidental et que tu le maintiens,
que tu le perpétues,
que tu le fortifies.
C'est ça.
Que t'es capable d'être au même niveau de maestria que les types qui t'ont légué les cathédrales et les châteaux forts dont tu es fier.
Voilà.
Voilà. Non, mais ça, c'est un discours entendu.
Et c'est pour ça que je dis, le jour où la France se sera débarrassée de ses problèmes principaux,
oui,
qu'elle sera redevenue
la France.
Oui, je veux bien m'en aller. Je veux bien m'en aller. Parce que je serai très heureux pour la France et que le travail aura été fait.
Ce que tu dis à travers cette phrase, c'est que tu es loin d'être la priorité. Et que tu es loin d'être un problème.
Il me semble. Après, si vraiment ça vous embête, si je vous embête et que c'est insupportable, je me barre, je vous dis. Moi, j'ai d'autres endroits où on est content de me recevoir, si vous voulez.
Ouais.
Voilà.
Bon, c'est pas le cas de tous les métis. Tu sais qu'il y a des métis prolos et eux...
C'est pas qu'une question d'être prolo ou pas, c'est une question d'éducation.
Oui.
Voilà. Certes, partout, j'ai été reçu avec un peu de... avec, comment dire, des avis mitigés. Mais à partir d'un certain temps, j'ai toujours été intégré. Parce que mon éducation, le respect que j'ai pour la culture dans laquelle je vais, donc à Rome on fait comme les Romains, fait que les gens finissent par trouver admiratifs les efforts que je fais pour ne pas les déranger, pour pas m'imposer. Et puis finalement, bon bah, c'est eux-mêmes qui sont quand même contents, qui veulent m'intégrer, et puis voilà quoi.
Ouais.
Qui veulent jouir de ma différence. Bien la sûr. Xénophobie, c'est absolument naturel. On le sait avec toutes les tribus qu'on va visiter, on en avait parlé il y a l'autre jour. Quand vous débarquez dans une tribu, que vous êtes différent physiquement, vous leur faites peur.
Oui, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre.
Et la peur, ça engendre quoi ? De l'agressivité ou de la fuite ? Voilà. Après, là-dessus, on peut travailler, on peut éduquer, on peut donner l'exemple, surtout, je crois. Et puis ça, cette peur s'estompe.
Oui, parce qu'on oublie que ce qui a fait l'Occident, c'est qu'on est sorti du tribalisme. L'Occident, la révolution occidentale, c'est qu'on était au même niveau de tribalisme que tout le monde. Les Gaulois étaient tribaux. Il y avait les Volques Tectosages, il y avait les je sais pas quoi, bon, ils étaient tribaux, il y avait beaucoup de guerres intestines. Les Romains sont arrivés, ils ont romanisé toutes ces tribus en leur disant « vos gueules, maintenant c'est l'aigle et l'impérium ». Alors évidemment, il y a toujours de l'acculturation, ça a fait les Gallo-Romains, parce que les Gaulois avaient une culture très très riche, et les Romains se sont rendus compte qu'il y avait des choses intéressantes, ils ont adopté certains trucs, bon. Et en fait, ça a donné des Gallo-Romains, bon. Donc, quelque part, est-ce qu'on ne serait pas en train d'arriver sur une conclusion qui est assez saine ? C'est que les bons éléments de bonne volonté, de bonne aloi, de bonnes conditions, qui sont somme toute assez rares en fait, on peut leur faire une place légitime, tout en se laissant la possibilité de dégager le substrat métis ou pas de sale merde. Parce que moi, regarde.
Mais c'est essentiel.
Mais moi, je suis dictateur. Moi, je suis dictateur. Bon. Déjà, j'envoie les paras dans le 9-3 pour expliquer que le 9-3, c'est un département qui se trouve dans un pays qui s'appelle la France. Et que la France a le pouvoir sur tous ses départements. Donc les petites chefferies, qu'elles soient maliennes ou qu'elles soient maghrébines, si tu veux, tu les vaporises. Ensuite, et même avant ça, moi, je mets dans le même paquet les Traoré que les traîtres à la nation française, que sont tous les promoteurs d'autodestruction, d'extrême-gauche, les LFistes, certains Junot contre qui je suis en guerre, tu vois. Pour moi, c'est dans le même peloton d'exécution, en fait. Tu vois, c'est dans le même. C'est-à-dire contre le mur, il y a les Traoré, il y a ces mecs-là, il y a les traîtres, il y a. Alors, je peux pas le dire parce que ça tombe sous le coup de la loi et du coup, rendez-vous à la 17e chambre. Mais il y a un représentant, par exemple, d'origine vendéenne, d'extrême gauche, je le colle au même mur que les Traoré. Parce que les Traoré n'existent que parce que ce fils de pute a été volontaire pour brader son pays. Et il a été légitime à le brader parce que lui, pour le coup, il était franco-français, tu vois. Donc on n'a rien pu lui dire.
Et, ça, et vous devez comprendre que les immigrés ou descendants d'immigrés qui veulent s'intégrer sont pris en otage par ceux qui foutent la merde et qu'on laisse faire. C'est-à-dire qu'à moi, à chaque fois qu'il y a un type qui me ressemble un petit peu, un tout petit peu proche de ma teinte, qui fait une merde dans le 9-3 parce qu'il n'y a pas d'autorité, que ça passe à la télé, je perds un peu de crédibilité et j'en chie encore un tout petit peu plus à m'intégrer. Donc il faut comprendre que le ressentiment que moi j'ai envers ces gens-là, il est énorme. Énorme. Et si ça tenait qu'à moi, il y aurait des solutions bien radicales. Mais c'est un ministre du pays du Nord, je crois que c'est Danemark, un ministre de gauche qui a expliqué ça aux gens, voilà, au reste de l'Europe, qu'en fait, mélanger les immigrés qui veulent s'intégrer avec les immigrés qui viennent de débarquer, qui sont absolument pas intégrés en masse, c'est les empêcher de s'en sortir. C'est les ramener à leurs conditions d'immigrer. Ensuite, il y a, vous devez comprendre aussi, que de par la prise de position qui est la mienne, je suis persona non grata dans la plupart des milieux dans lesquels vous pensez que j'appartiens.
Oui, c'est-à-dire que oui, dans les milieux hip-hop mes couilles, dans les milieux afro-centristes et tout, tu es un enculé de métis.
De qui a la haine de soi, etc. Voilà. Donc le sacrifice nécessaire pour porter mes idées que je pense objectivement justes, c'est de me retrouver très seul. Maintenant, je voudrais préciser, voilà, j'appartiens à un cercle, le cercle Richelieu, et malgré les appréhensions que j'ai eues, j'ai été quand même bien reçu par la plupart des anciens de ce cercle. Donc voilà, j'en profite pour leur faire une petite dédicace et leur dire que voilà, j'apprécie beaucoup la façon dont ils m'ont accueilli. Comment dire, j'ai même été un petit peu protégé par certains d'entre eux. Voilà, donc j'apprécie et je dois reconnaître qu'à droite, il y a des gens exceptionnels qui sont aussi prêts à faire un contre tous pour me protéger moi.
Et ben c'est tout à leur honneur, on leur passe le bonjour.
Donc c'est pour ça que je serai prêt à faire un contre eux. Tous les miens pour les protéger, eux.
C'est magnifique. Alors, ce qu'il y a de beau avec le royalisme, c'est qu'en fait, les royalistes ont une très très grande. Ils ont un très très grand respect pour la grâce et la vérité, tu sais, parce qu'en fait, le roi, il est de droit divin, il est là par la grâce de Dieu, hein, c'est la formule. Donc, c'est vrai que les royalistes sont beaucoup plus perméables à la méritocratie, parce que pour eux, le mérite, c'est ce qu'a fait les rois, en fait. Le mérite, c'est ce qu'a fait le système auquel on croit. Et si parmi les gens à haut mérite, il y a des gens qui ne sont pas ethniquement français, en fait, on se fait quand même un devoir de reconnaître, par amour pour la vérité, par amour pour la pureté et de la grandeur, parce que c'est ça qu'ils aiment les royalistes, c'est la grandeur, on se fait un devoir de reconnaître ce mérite-là. Moi, c'est ce que je fais avec Jules, mais ça ne m'empêche pas derrière de dire que les racailles du 9-3, il faut soit les déporter, soit les exterminer si on ne peut pas les déporter. Alors, autre chose aussi très intéressante, par rapport à ce discours que je porte, là, tu vois, il y a un contre-argument. J'essaie de vraiment faire un truc honnête intellectuellement et de représenter des gens qui ne peuvent pas s'exprimer dans les podcasts, que sont les racialistes. Donc, eux, ils m'objectent souvent, ils me disent « Mais attends, toi, tu veux une société multiculturelle à condition qu'il y ait un énorme appareil répressif. Donc en fait, on va vivre dans une société ultra répressive. Et le seul moyen que ça marche, le seul moyen qu'il y ait plusieurs ethnies qui cohabitent sur un même territoire, c'est qu'il y ait un appareil ultra répressif. » Bon, deux choses. Ça, je veux profiter de ce podcast pour répondre à cet argument qui est intéressant quand même, tu vois. Parce qu'ils te disent, regarde, dans toutes les sociétés multiraciales, ça part en couille. Oui, mais. Récemment, il y a énormément d'exemples qui te montrent que il y a des sociétés qui sont uniraciales, monoraciales, où il y a énormément de répression. Je peux en citer plein. La Chine et le Japon, tu sais, parce que souvent dans la carte du client, c'est les Coréens, les Chinois et les Japonais qui sont devant, tu vois. Et eux, ils ont des sociétés. Elles sont unies, monoraciales pratiquement, même s'il y a beaucoup d'ethnies en Chine, attention. Tout à fait. Mais au Japon, par exemple, on peut parler d'un pays monoracial. Le niveau répressif est tellement intégré par les gens qu'ils n'ont même plus besoin de les réprimer.
Tout à fait.
Et les peines de prison sont d'une violence inouïe. Et d'ailleurs, quand il y a certains Européens, et à ce titre d'ailleurs, certains et qui sont blancs, qui font des dingueries avec des Japonaises et tout, ils se retrouvent dans des prisons où il n'y a pas de matelas à tirer 50 ans. Hein. parce que ils ont malmené une japonaise en étant à 4 grammes, tu vois. Donc la répression n'est pas uniquement ne survient pas uniquement quand c'est une société multiraciale, parce que les régimes africains sont extrêmement répressifs. Le Japon industrialisé monoracial l'est aussi. Oui. Donc ça, premier argument. Ensuite, deuxième argument, tu as des pays qui sont des pays avec beaucoup de multi-ethnicité. Moi, je suis contre le multiculturalisme. Je n'ai rien, attention, quand je dis le multiracial, je n'ai rien contre des minorités raciales au sein de pays. Je vais prendre deux exemples récents. Le Salvador, c'est un peuple, il y a je ne sais plus combien d'ethnies, donc il y a les métis noirs indigènes, il y a les indigènes, il y a les noirs sans être métissés, il y a les blancs métissés avec les indigènes, il y a les blancs métissés avec les noirs, enfin c'est l'Amérique du Sud, c'est vraiment une mosaïque d'ethnies, d'accord ? Il y a le catholicisme qui les unit, ils arrivent, je rappelle que Nayib Bukele, je le dis tout le temps mais j'ai envie que les gens l'entendent, le Nayib Bukele a consacré le Salvador à la Sainte Vierge Marie. Il a dit voilà, je m'apprête à essayer de sauver le Salvador, je mets le Salvador et mon projet sous la protection de la Sainte Vierge Marie. 4 ans plus tard, c'est le pays, c'est un des 4 pays les plus sûrs du monde, je répète que c'est un pays multiracial, c'est dans les 4 pays les plus sûrs au monde, aujourd'hui le Salvador est plus sûr que la France. C'était le pays qui était dans la 3e position des pays les plus dangereux au monde il y a à peine 5-6 ans, avec la Somalie et l'Afghanistan. Je sais pas si tu te rends compte la puissance du truc, tu vois. Donc le mec dédie son pays à la Vierge Marie, il met les chèvres, les brebis galeuses en prison, dans des camps de concentration, parce qu'il faut appeler, faut dire les termes. Il a mis les criminels en camp de concentration. Le pays aujourd'hui est dans un état de prospérité et les gens adorent Nayib Bukele. Donc tu vois, on a du répressif multiracial, on a du répressif monoracial, et on a surtout, à mon avis, des sociétés saines quand culturellement il y a une homogénéité. Et le Salvador, tu as beau être métis noir, noir, ce que tu veux, tout, ta culture, c'est le catholicisme, la langue espagnole, tu es un salvadorien avant d'être autre chose. Tu es un japonais avant d'être autre chose. Malheureusement, en France, il n'y a plus le tissu religieux, donc on ne peut pas avoir une exigence d'homogénéité culturelle. Parce
et
que
même, en Suisse par exemple, j'ai eu la chance de pouvoir faire un service militaire.
Ah oui, ça tu peux en parler, voilà, tiens, c'est intéressant.
Le service militaire suisse est avant tout une façon d'homogénéiser un peu la population, c'est-à-dire de mélanger la population des villes, de la haute montagne, les paysans qui parlent un suisse allemand à peine compréhensible et qui savent pas forcément écrire, et puis le genevois comme moi, métis de ville, enfin je suis pas de ville mais voilà, quand même un petit peu pas loin d'une ville, et à l'armée on est tous pareils, on est tous ensemble, on doit se donner la main, on doit travailler ensemble, etc. Et ça, c'est pas que ça horizontalise un peu, mais ça gomme un petit peu les a priori, et ça ouvre un peu l'esprit aux différentes cultures. Et je pense que le service militaire en France, c'est essentiel, c'est non discutable, aussi parce que le principal problème de délinquance, c'est la jeunesse.
Ouais.
C'est une jeunesse qui s'emmerde, qui a beaucoup de testo, qui peut pas s'en servir, qui a peu de débouchés, que ce soit travail ou dans la promiscuité, on va quand même dire les choses. C'est plus facile de séduire, de trouver une belle nana quand vous êtes Julien Rojdi que quand vous êtes
moi.
Mais on peut aller encore plus loin.
L'autoclash.
On peut prendre Kamel, enfin le stéréotype de ce qu'on entend, ce qu'on déteste en fait dans la cité. Il faut bien comprendre que c'est pas ce qu'il y a de plus désirable sur le marché, quoi.
Tu es en train d'insinuer que ce qu'on déteste plus dans la cité, c'est quelqu'un qui s'appelle Kamel? Qu'est-ce qui te fait dire ça?
Des problèmes. Faut que j'arrête de faire des podcasts avec toi, tu vois. Tout se passait bien dans ma vie. Là, je cruisais, tout allait bien, j'avais une carrière, j'ai presque une meuf et des enfants, puis là, c'est bon, je commence à faire des podcasts avec toi, pas si tôt.
La violence pour un rebeu qui écoute ce podcast. Le parce que dans sa tête il se dit le raciste islamophobe papacito invite un noir aristocrate pour dire que Karim est une merde, mais t'imagines des types.
Non mais je peux parler de moi aussi, enfin c'est valable pour moi, ce que
je rigole,
que je représente, etc.
Je rigole
mais à un moment donné il faut être objectif, il faut qu'on dise les choses.
Alors c'est intéressant parce que toi il y a eu service militaire dans l'armée suisse, il y a eu conservatoire, il y a
école privée
ta situation de majordome, ta maîtrise de plusieurs langues, tu parles l'allemand. Mm-hmm. Bon, ça, c'est quand même des trucs qui envoient, tu vois. Tu, en plus, étant suisse, tu as développé quand même une connaissance pour des trucs qui sont assez stylés, parce que c'est la Suisse est une concentration de gens qui ont des habitus bourgeois. Donc, en fait, il y a la connaissance sur les montres, les vins, le champagne, le cigare, les produits de luxe. Donc, t'es devenu... En fait, tu es de facto... Un modèle, tu sais, c'est au 19e que les types étaient à la fois aventuriers, mondains, militaires, enfin on en parlait l'autre jour.
Mais si, là, les gens qui nous écoutent, vous me trouvez détestable parce que vous êtes un sale bourgeois, mais vous avez tout compris. Et enfin, vous arrêtez de me voir comme un noir,
oui,
tu vois, si tu veux.
Ça, en fait, la bonne nouvelle pour toi, c'est d'être détesté parce que t'es un sale bourgeois et pas parce que t'es un sale noir.
D'ailleurs, une anecdote, une fois, j'étais allé en boîte de nuit en Roumanie parce que j'avais fait un voyage en Roumanie avec un pote. Et en boîte de nuit, je me fais draguer, je danse avec une super nana et j'arrive dans les chiottes. Et il y a un Roumain, donc un blanc et tout, ce que moi j'ai toujours pensé, entre guillemets, par complexe, hein, qui était un peu supérieur à moi, machin. Un blanc qui vient me dire, il fait, ouais, tu sais que la seule raison que la meuf, elle est avec toi, c'est parce que t'es blanc. En fait, en Roumanie, je suis un Européen.
Oula, alors comment, par quelle magie?
La langue déjà, le passeport.
Ah.
Si tu veux, en Roumanie, mon passeport est passe bien avant ma couleur.
Ouais, d'accord. Le côté, je vais pouvoir quitter Ceausescu, oui, pour aller en Suisse. Hein.
Oui.
Ouais, parce qu'il vit avec des gitans.
Noir, pas noir, bleu, jaune. Tu quittes Ceausescu, tu vas à Genève. Si tu veux, les parents, ils signent tout de suite, en fait.
Alors attends, ils relativisent ta négritude parce qu'ils connaissent des Roms.
Ouais. Et c'était un des trucs les plus flatteurs que j'avais jamais entendu.
Oh putain.
Donc le gars, il me dit ça pour mettre un coup de pression. Moi, je suis redescendu, j'avais le sourire, j'étais assaillé en fait.
Putain, mais tu viens de...
J'ai passé la barrière en fait, j'ai pété le plafond de verre en fait.
Tu viens de me donner une idée politique géniale, c'est qu'en fait, pour que les Noirs s'intègrent en France, faut qu'on mette des gitans partout pour que les Français puissent se dire, ah finalement, c'est pas
ça. Ouais, c'est ça, c'est ça, tu sais.
Alors... Tu me fais penser à quelque chose, là, parce que c'est vrai que là, on est revenu un petit peu sur ton parcours. Donc, il y a eu de l'armée, il y a eu du conservatoire, il y a eu tout ce que j'ai énoncé. Ça me fait penser beaucoup, je te le cache pas, au parcours de maestria totale du Raptor. Parce que le Raptor, il est un peu dans la même situation que toi. C'est qu'en fait, il y a des mecs un peu bas du front qui lui disent « Ta gueule, défends pas la France. Après tout, tu n'es qu'un infâme raton de Kabylie. » Or, moi, je le connais personnellement. Or, le Raptor, c'est une entreprise florissante qui, d'ailleurs, a une reconnaissance désormais qui dépasse simplement le cadre de la, tu sais, de la droitosphère.
Oui, la dissidence.
Sur Internet, c'est aujourd'hui, tu as des sportifs de haut niveau, via les aminogrammes de ces compléments, qui estiment que c'est ce qu'il y a parmi les meilleurs produits du marché, si ce n'est les meilleurs produits du marché, dans le secteur, dans ce secteur-là précis, de la complémentation, tu vois. C'est un type qui a fait le conservatoire, qui a une maestria, une compréhension de la musique. Moi, là où je le trouve le plus passionnant, le Raptor, c'est quand il parle de la musique du Seigneur des Anneaux et tout, il m'aide à décoder des trucs. Tu sais, j'avais des sensations quand je regardais le film, je comprenais pas pourquoi
oui,
je les
avais. Oui, mais ça, c'est un autre podcast, ça.
Ouais, et quand t'es avec un musicien qui arrive à décoder la musique et qui t'explique pourquoi chimiquement les mecs ont été des maîtres, parce qu'ils ont réussi à te...
C'est de la cuisine à ce niveau de la musique. C'est une popote, ils savent très bien ce qu'ils font, la bonne dose de sel, la bonne dose d'arôme.
C'est de la gastronomie.
C'est de la gastronomie. Ils connaissent les humains, ils connaissent... Comment on crée une harmonie, comment on fait, vous savez, cette chair de poule qu'on peut avoir quand on entend certaines musiques, souvent avec la musique classique, mais pas simplement. À un moment donné, il y a une harmonie, il y a quelque chose, puis on a la chair de poule, il y a les poils qui se dressent, voilà, ils maîtrisent ça. Ça, c'est, voilà, c'est étudié, c'est ça la musique de haut niveau.
Eh ben, tu vois, moi, j'étais incapable de le décoder. Un type comme le Raptor, comme Ismaïl, il se pose, il m'explique le lead, tu sais, les strates, tout ça et tout. Bon, ça, c'est passionnant. Chef d'entreprise accompli, il a fondé le milieu, les références de droite, hein, sur le montage, sur les thématiques, sur la manière de clasher, sur un style de diction, tu vois. C'est lui qui est le père de tout ça. Bon, il a un humour exceptionnel. Je lui passe le bonjour, hein, au passage.
On lui passe le bonjour.
Ouais, on lui passe le bonjour, le Raptor. Et en fait, lui, c'est un type. Alors, attention, il faut que je dise des choses. Il a la reconnaissance de gens qui pèsent un truc de ouf, tu vois. CDM se remplit de choses positives. Mais je sais, parce qu'on s'envoie nos messages de temps en temps, je sais que de temps en temps, t'as des mecs qui sont des clodos structurels, hein, des merdes, et d'ailleurs qui n'ont même pas leur gueule sur leur photo de profil.
Non mais moi, ouais, tellement... dès que je vois pas le, y a pas, vous avez pas votre nom, votre prénom, c'est même pas la
peine. Ouais, c'est pas la peine de cacher parce qu'à un côté, je suis désolé, ma tête est un pyjama, j'ai rien à mettre d'autre. Tu vois.
Oui, puis enfin, je ne suis pas anonyme sur les réseaux. Vous venez pas m'invectiver si vous êtes anonyme. Ça
oui,
serait pas.
C'est ça, ça c'est une question de bon sens.
C'est même... le gars qui jette un caillou, qui se cache derrière l'arbre, quoi.
Ouais, voilà, ouais,
c'est
ouais,
bon.
Ouais.
Un rhum. Oui, 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 voilà. De 12 ans, quoi.
Mais moi, des fois, je renvoie les mecs comme ça qui clashent, qui clashent racialement, tu vois. Je les renvoie au fait que les Européens d'avant faisaient pas des trucs comme ça. C'était vachement chevaleresque. Ils sont à rebours complètement. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce qu'ils sont souvent antisémites. Et ils adoptent tous les codes qu'on prête aux juifs, tu oui, sais. Non. La fourberie, le truc et tout. Ils sont en plein là-dedans. Mais ils te disent, tu es un
infâme. Après, voilà, ces gens-là me font la peur du temps pitié. Parce que je pense que bon voilà pour
oui,
qu'ils n'assument pas
drôle, oui c'est des vies pas drôles
voilà c'est des vies pas drôles donc j'ai pas moi j'ai, je perds pas mon temps à détester ce
genre
non,
de même premier degré même si tu lis des choses des fois énervantes il y a la modernité a très très durement frappé certains Français certaines familles de Français et tu peux comprendre dans certains cas quand il y a eu des agressions extrêmement violentes quand il y a un manque de perspective quand il y a eu
mais bien sûr.
Une famille qui est pas aimante et tout tu peux comprendre moi des fois je me force à avoir ce travail de compassion où je me dis bon là le mec me délivre un truc ultra violent c'est du ressenti en bloc et je me dis il y a énormément de souffrance derrière donc c'est vrai que je me force à arrêter de leur de les humilier ou de les minimiser parce que leur souffrance est sans doute réelle.
Oui, voilà. Bien sûr, sinon ils ne perdraient pas leur temps à faire
ça. Cela dit, dans ta souffrance, tu as toujours une part de responsabilité parce que quand tu es en enfer, il faut faire comme Orphée, il faut essayer de prendre l'escalier qui te ramène à la surface. Tu vois.
Oui, et puis bon, en fait, si être pauvre et galérer, c'était une excuse pour être une salope sur Internet, comment justifiez-vous qu'il y a des gens qui sont pauvres, qui galèrent et qui sont des gens parfaitement honorables?
Ouais, tout à fait. Tout à
donc
fait.
À un moment donné, même dans n'importe quelle condition, noir, pauvre, riche, ce que vous voulez, vous avez toujours un moyen de briller et d'être moralement en haut en fait.
Ouais, tout à fait.
En haut de l'échelle.
Tout à fait.
Et c'est encore plus beau en plus quand c'est galère parce que votre condition sociale pousse à l'inverse.
Ouais, complètement.
Voilà. Et d'ailleurs, ça c'est un message pour les immigrés. On parle souvent de cité, d'immigrés, etc. C'est pour ceux qui sont intégrés, qui font le travail, qui se battent pour voilà pour se faire respecter des deux côtés, pour pas qu'il y ait d'amalgame. Ben voilà, j'ai beaucoup de respect pour vous. Et courage et puis voilà quoi je pense que c'est le combat le plus dur. Voilà.
Ouais.
Si vous venez vraiment d'en bas, ce qui n'est pas mon cas, vous avez un combat qui est bien plus dur que le mien. Ouais. Voilà. Incomparable. Et votre mérite en cas de réussite, il est aussi bien plus grand que le mien.
Ben tu vois, c'est pour ça que moi je trouve ta situation et la situation du Raptor admirable parce que vous êtes associé ethniquement à des gens qui vont vous détester pour votre amour pour la France. Et vous allez avoir... Alors attention, il y a beaucoup de Français qui envoient beaucoup de respect et d'amour au Raptor. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nos émissions fonctionnent et tout. Hein. Mais il y a un substrat, une petite part qui sont extrêmement injustes avec lui. Et l'injustice, malheureusement, c'est tellement détestable que ça prend une énorme place, tu vois. Et je trouve que lui, des fois, et ça, il y a beaucoup de gens de droite qui l'ont pas compris. On avait de l'or avec le Raptor. Et on a un peu grillé une cartouche, on l'a un peu dégoûté. D'être et de faire le travail qu'il faisait, d'être ce qu'il était, parce qu'il y a eu énormément d'ingratitude avec ces mecs-là. Voilà. Et en fait, je vais finir le podcast là-dessus, parce que mine de rien, on en est à 1h12, il faut que je t'amène à l'aéroport. Mais je voudrais finir là-dessus. Je voudrais dire, donner une juste rétribution à ceux qui font des efforts, c'est extrêmement important, c'est extrêmement juste et c'est un exercice extrêmement chrétien. Et ça ne doit pas nous empêcher d'avoir des discours extrêmement fermes avec les brebis galeuses. Moi, tu vois, je suis quelqu'un qui est pour la méritocratie. Je suis prêt à me battre de toutes mes forces pour donner une carrière à Jules, pour faire reconnaître ta grandeur aux gens qui nous écoutent. Et en même temps, je ne m'empêche pas de dire qu'il faut envoyer un régiment de paras dans le 9-3, faire le ménage avec des exactions si ça s'impose. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi j'ai ce double truc de il faut être capable de dire qui sont les chevaliers parmi les extra-européens qui sont au service de la France, tels des Dumas, père, tu vois, et à la fois être capable d'expliquer aux minorités que même si eux sont pas d'accord, il va falloir qu'on fasse le ménage. Et que même s'ils aiment bien leur cousin un peu Kaira, parce que finalement, quand même, on est de la même famille, non, ton cousin va devoir l'atomiser, il a pas ton mérite. Si tu l'aimes bien, ben, soit tu le suis en Algérie, au Mali, où tu veux, soit tu acceptes qu'on fasse le ménage, et que ta seule communauté, c'est la communauté française. Non pas la République, mais ta communauté française. Voilà, moi, c'est le message que je dis, ce n'est pas la promotion du métissage, c'est pas la promotion de l'invasion africaine en France. Je suis en train de dire, on ferme le robinet migratoire, ceux qui sont là et qui sont des bons, on les garde. Et les Idriss Aberkane, les mecs comme toi, les mecs comme Aldostérone, les mecs comme le Raptor, sont des types, on pousse derrière eux, on fait bloc, on les intègre parfaitement dans le corpus national. Mais à la fois, on retrouve une souveraineté et on envoie toutes les brebis galeuses dans les camps de concentration de Bukele. Voilà, si tu veux conclure quelque chose.
Voilà, moi j'ai eu une agréable surprise. On m'a reconnu sur internet à partir du dernier podcast que j'avais fait. Quelqu'un m'a reconnu sur un autre sujet. J'avais mis un commentaire sur une vidéo Instagram et quelqu'un m'a reconnu. Il a dit oui, est-ce que tu machin, papesto. Et je lui ai demandé d'effacer parce que vous devez comprendre que dans mon milieu, voilà, il n'y a pas d'objectivité. Les gens se foutent de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai. Si je ne correspond pas à leur idéo politique, je ne suis pas pris, je n'ai pas de travail. Donc voilà, je ne peux pas me le permettre. Voilà, ça peut être vu comme de la lâcheté, j'assume. C'est un sacrifice que je dois faire. Pour manger, comme vous tous, vous avez des sacrifices à faire pour manger. Voilà, moi c'est ça, c'est de m'afficher sur les réseaux. Donc je vais vous demander de pas voilà de faire comme ce gentil monsieur qui a effacé son commentaire sur demande, et je le remercie de pas me tag vis-à-vis de ça. En revanche, si vous voulez m'écrire, vous avez des questions sur mon milieu, sur mon parcours, vous simplement m'écrire pour parler sur Instagram, ce sera avec plaisir que je vous répondrai et qu'on aura une discussion.
Eh ben écoute Sullivan, je te remercie, je te souhaite un bon retour dans les montagnes helvétiques.
Merci à toi.
Et je te dis à la prochaine parce que chacune de tes apparitions dans ce podcast ont régalé le public. Ils étaient très contents là quand j'ai annoncé que tu venais le refaire. Donc je te remercie d'y avoir participé et je te dis mon cher ami, à la prochaine et je te remercie.